Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
Dans un coin,
il y avait casse baissée.
Et c'était quoi comme champignon au fait?
Je sais pas, j'y connais rien en champignon.
Je crois que c'est de la volaille, sire.
Nicoclet, farandole de champignon.
C'est un champignon qui fait des ravages dans nos maisons. La mérule se nourrit du bois et adore l'humidité. Les dégâts peuvent être considérables.
Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon.
Évidemment, on prend ça à la légère et en souriant, mais vous allez voir que la mérule, c'est, ça rigole pas. Hein. Oui. C'est vraiment une menace qui peut être vraiment très dangereuse.
Et puis, ça ne se mange pas, comme non, les champignons dont pas. On vient de parler.
Ou alors, il faut vraiment avoir très très faim.
Nous sommes ce matin avec Christophe Bruand, bonjour.
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 Vous êtes patron de APBM, qui est une entreprise spécialisée dans, on va dire, la lutte contre toutes les nuisances du bois dans la maison, mais pas seulement d'ailleurs. J'imagine.
C'est ça, principalement, tout ce qui est pathologie du bois, les insectes à larves xylophages, les champignons, les termites.
D'accord. Donc, on va parler avec vous de mérules, parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il y a plus de 20 ans que vous êtes dans ces métiers, et que, en tout cas, dans la région parisienne, on parlera ensuite de la répartition nationale, mais dans la région parisienne, c'est en train d'exploser, quoi.
Ah bah, pour la petite anecdote, oui, effectivement, moi, étant dans le métier depuis 22 ans, au début, les problèmes de mérules, c'était essentiellement la Normandie, la Bretagne. En région parisienne, on avait 1-2 rendez-vous tous les 2 mois pour des problèmes de mérule. Aujourd'hui, on est quasiment à 3-4 rendez-vous hebdomadaires.
Ah oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment en pleine prolifération. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la mérule? On parle de champignons, mais quand on parle de champignons, on voit le cèpe avec son beau chapeau, etc. Ça n'a rien à voir. Enfin, sur un plan, je dirais biologique, c'est à peu près la même chose, mais ça n'apparaît pas du tout comme ça.
Du tout.
Quelle tête ça a? D'abord, comment ça fonctionne?
Ah bah, dans un premier temps, la mérule, c'est quoi? C'est un champignon lignivore qui se développe principalement dans les bâtiments ou, comme vous disiez, où l'humidité règne.
Oui. Et l'obscurité, je crois aussi. Hein.
Alors oui, il faut des conditions de développement bien particulières. Il faut toujours une humidité, il faut un air confiné et il faut des bois à l'abri de la lumière.
D'accord. Et une certaine température.
Une certaine température.
C'est-à-dire, c'est quoi, à partir de 14-15 degrés, quoi? Quelque chose comme ça.
Au-delà de, on est en moyenne à peu près sur 20 degrés.
Hein. Ah oui, 20 degrés. Donc oui. C'est par exemple, alors l'idéal entre guillemets pour la mérule, c'est par exemple une résidence secondaire fermée pendant tout l'hiver en laissant du chauffage. Penser qu'on assainit sa maison et puis avec les volets fermés, quoi.
C'est ça. Bah, comme vous citiez tout à l'heure, c'est toujours malheureusement aujourd'hui l'humidité qui est le cancer pour un bâtiment. Soit c'est lié à un manque d'aération, de ventilation, un problème hygrométrique de l'air, des problèmes d'infiltration. Donc oui, l'humidité.
Alors, juste, évidemment, on va expliquer ce qu'est la mérule, comment elle se développe, etc. Mais j'aimerais vraiment que vous nous appeliez ce matin pour soit poser des questions concernant la mérule ou alors nous dire si vous avez été infecté par la mérule.
Ou si vous suspectez.
Ou si vous suspectez, quels sont les premiers signes? Vous avez des questions 3216 ou bien via l'appli RMC Direct Studio. Laissez-nous votre numéro de téléphone.
Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a quoi dans un champignon? Il y a, on va dire, un système racinaire, pour simplifier.
Oui, c'est ça.
Et puis du mycélium, c'est-à-dire des bras, pour simplifier encore, qui vont chercher l'humidité.
C'est ça, c'est un peu les racines du champignon qui vont chercher l'humidité et la cellulose pour se développer.
D'accord. Et quel aspect ça a? C'est assez dégoûtant. J'ai mis sur Facebook sur la page Facebook une photo. C'est pas ragoûtant, quoi.
Alors, on s'en aperçoit pas forcément au début. Au début,
c'est ça, le problème.
On voit une toile un petit peu grisâtre. Et après, quand le champignon commence à se développer, devient à maturation, on a une masse de fructification, de couleur un petit peu rouille. Là, c'est un petit peu comme l'iceberg, les 9 dixièmes sont cachés.
Ah oui, les 9 dixièmes sont cachés, ah c'est oui. plus que l'iceberg ah même. Et donc, ça fait quoi c'est, j'ai vu que ça coulait un peu, il y a une ah bah en surface.
On peut dire après, c'est une éponge. Parce que ça développe de l'humidité en plus pour continuer à prédigérer, à attaquer les bois.
Et ça peut proliférer sur des dizaines de mètres.
Ah oui, oui, oui. Sur différents niveaux, sur différents étages. C'est pour ça que quand on traite la mérule, on doit la traiter sur 3 dimensions.
C'est-à-dire 3 dimensions ?
C'est-à-dire sur la hauteur, sur la largeur, sur la profondeur. Si on est sur un premier étage, on est pratiquement obligé de traiter l'étage du dessous, l'étage du dessus.
Alors, moi j'avais juste... Alors, avant, tout à l'heure, on va parler oui. du traitement, s'il en existe.
On va y venir.
Mais elle se développe parce que elle s'étend ou est-ce que les spores, parce qu'on sait que...
C'est pas les spores.
C'est pas les spores qui vont se balader dans la maison et qui vont se poser.
Ce sont les mycéliums. Des spores, on en a partout à l'état latent. Il y en a dans les forêts. Après, il faut des conditions bien précises pour le développement
du champignon. Les spores, c'est un peu les graines du champignon, de toute façon. Donc là, on n'est pas. Alors, il peut y avoir des graines qui vont dans la maison d'à côté, si j'ose dire. Des spores peuvent aller dans
Donc une maison infectée par la mérule peut infecter une autre maison ?
Non, si les conditions d'humidité ne sont pas présentes, c'est pas
D'accord,
possible.
D'accord, voilà. Oui, oui. Il faut vraiment que les conditions qui ont été décrites, c'est-à-dire l'humidité, le confinement, l'obscurité et la température soient réunies.
Tout à fait.
D'accord.
Et c'est pour ça que d'ailleurs que ça touche finalement les régions, on va dire un climat doux, tempéré. C'est pour ça que la Normandie, la Bretagne,
sont des régions propices.
Bon, on sait que Cabourg, Deauville, Trouville, tout ça, c'est très touché. Même si les immobiliers ont tendance un petit peu à minorer le phénomène, mais j'ai de très bons amis immobiliers dans le secteur, donc j'ai des tuyaux, si j'ose dire. Et puis le nord de la France aussi, et puis Paris.
Et tout à fait.
Mais le sud donc moins parce qu'il y a moins d'humidité, c'est voilà. ça.
Moins d'humidité, moins de conditions pour le développement de ce champignon.
D'accord. Dans le sud de la France, il n'y a quasiment pas de mérules.
Quasiment pas.
D'accord.
Alors, quand on constate ce phénomène, est-ce qu'on est obligé de faire une déclaration comme pour les termites, par exemple ?
Alors, maintenant, effectivement, on a la loi Allure qui incorpore un petit peu tout ce qui est la problématique de mérule. La loi Allure comporte 4 niveaux d'obligation pour les propriétaires avec la déclaration obligatoire en mairie par les occupants, pour le préfet la délimitation au niveau départemental des zones de présence d'un risque de mérule
et avec une carte qu'on peut consulter d'ailleurs.
Exactement. Auprès du FCBA.
Voilà, le FCBA, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, on va dire la fédération des industriels du bois.
Exactement, c'est l'organisme qui gère les entreprises qui sont certifiées pour le traitement des pathologies du bois en France et dans les DOM.
Voilà, alors on en était au préfet, après ?
Ensuite, il y a pour le diagnostiqueur, avec l'obligation d'informer sur la présence d'un risque de mérule en cas de vente d'un bien immobilier.
Ouais, c'est ou de location.
Exactement. Ou pour l'entreprise de traitement, donc là, de traiter les matériaux avant évacuation pour éviter justement
une prolifération. Alors justement, les entreprises, comment être sûr de s'adresser à une entreprise compétente qui utilise des bons produits ?
Bah, là, il faut s'orienter sur des entreprises qui sont certifiées, qui sont testées...
Certifiées par le FCBA,
CTBA+.
D'accord, ça vous pouvez y aller sur Internet, vous tapez CTBA+, ou FCBA,
exactement.
Et vous aurez toutes les informations... La liste des entreprises, c'est très important. Parce qu'il y a là-dedans encore beaucoup, évidemment,
co-délinquants
qui se glissent.
Et qui profitent, en fait, de ce drame. Voilà.
Et, ou alors qu'ils vous disent qu'il y en a, alors qu'il n'y en a pas.
Tout à fait, oui.
Ça, c'est l'escroquerie, c'est classique en ce moment, dans d'autres domaines, on le sait bien, notamment aussi pour les insectes oxylophages, tout ça.
Exactement.
Mais soyez très attentifs. FCBA et CTBA+, pour l'entreprise et les produits. CTBA P+.
CTBP+, pour les produits.
CTBP+, pour les...
La marque décline en fonction un petit peu de la destination.
D'accord. Donc, qu'est-ce que va faire cette entreprise ?
Cette entreprise, elle va déjà intervenir, diagnostiquer, vérifier si c'est bien de la mérule. Ensuite,
vous avez des outils où ça se voit ? Enfin, un expert le voit tout de suite ?
Pour un professionnel du traitement, il le voit. On le reconnaît. Après, si on a un doute sur le champignon, on peut envoyer des échantillons au service mycologique du FCBA pour l'analyse et déterminer si c'est bien de la mérule.
Et si c'est pas de la mérule, ça peut être aussi des champignons dangereux.
Il peut y avoir d'autres champignons, le polypore des caves, le goniophore. Après, ce sont des pathologies qui sont quand même aussi importantes, mais moins virulentes que la mérule.
Ouais. La mérule, ça se développe en combien de temps ?
Tout dépend des conditions
d'humidité. Mais si les conditions sont favorables, si j'ose dire.
Bon, après, on a vu des pièces de bois coupées en deux par le champignon en quelques semaines.
En quelques semaines ?
Oui.
Oui, c'est quand même. Et est-ce que alors on va pas faire peur, mais est-ce qu'il y a vraiment des cas où, comme je disais tout à l'heure, il y a plus qu'à détruire le bâtiment?
Oh bah, comme je vous disais, malheureusement, quand on commence à s'apercevoir des infestations de mérules, les 9 dixièmes sont cachés. Donc il y a déjà des gros bobos au niveau de la maison. Donc
eh oui.
Ça peut jouer sur la structure même des charpentes, des planchers, d'autres boiseries. Oui, ça peut faire.
Et puis vous devez avoir un problème de constructif aussi, c'est que maintenant toutes les maisons sont doublées en plaques de plâtre. Donc ça doit pouvoir se développer derrière.
Ah bah c'est
ça le problème.
C'est pour ça que
ça se voit pas.
Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des travaux d'exploration pour déterminer l'étendue de la mérule. Quand on est dans des zones aménagées, effectivement, on est obligé de déposer les doublages, les revêtements de sol. Quand c'est dans un sous-sol, c'est relativement plus visible.
Avec le risque de vis cachée, hein, parce que je rapporterai moi le témoignage d'un ami qui était dans l'immobilier il y a quelques années à Cabourg, pour ne pas nommer la ville, et où s'appuyant, ayant un appartement nickel, et où s'appuyant, mettant la main sur la plaque de plâtre,
simplement pour se reposer, quoi.
Oui, enfin, oui. Voilà. Et rentrant dans la plaque de plâtre jusqu'à l'épaule.
Mon Dieu.
Et derrière, c'était complètement gagné par la mérule. C'est donc, ça veut dire que c'est quand même effectivement extrêmement sérieux.
La mérule s'attaque à tout type de matériaux.
Non, alors ça s'attaque principalement au bois, ça se nourrit du bois, aussi bien sur des bois résineux que feuillus, mais ça peut traverser la porosité des matériaux, des pierres, pour continuer à se développer.
Voilà, ça traverse les pierres, ou ça peut traverser un mur en parpaing pour aller chercher avec son mycélium la flotte et...
Est-ce que ça va fragiliser le mur en parpaing?
Non, ça va pas fragiliser, mais ça va amener encore de l'humidité.
Oui, c'est ça, ça va mettre encore plus d'humidité.
D'accord.
Et donc c'est dingue. Alors maintenant on peut parler de traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites, docteur? Et que fait la police?
Ah bah quand on intervient pour le traitement, on va bien évidemment, comme je disais, faire des travaux d'exploration pour déjà dans un premier temps déterminer l'infestation de mérules. Dans un deuxième temps, mettre une étape curative qui est de supprimer toutes les sources d'humidité pour éviter la prolifération du champignon. Et après, on va intervenir selon un protocole, selon des prescriptions techniques établies par le FCBA pour le traitement avec des produits adéquats.
Mais alors, il va falloir bûcher, si j'ose dire, aussi les parties en bois, les parties fragilisées.
Justement, pour déterminer la résistance mécanique, l'état structurel des bois.
Et l'étape suivante, quand ça sèche, ça forme une espèce de mosaïque, comme
alors,
bleu
quand bois. La mérule s'attaque un petit peu au bois, effectivement, ça ramène de l'humidité et ça va attaquer la fibre du bois. Donc ça a un petit peu l'aspect, c'est ce qu'on appelle la pourriture cubique, ça fait un petit peu comme l'aspect du charbon de bois, comme le bois brûlé.
D'accord. Et ça, du coup, ça n'a plus aucune résistance mécanique.
Petite question sur Direct Studio, la question de Sylvain qui nous dit: quelle prise en charge par les assurances concernant la mérule?
Il n'y a pas de prise en charge en règle générale par les compagnies d'assurance.
Non, parce que c'est pas assurable, effectivement. C'est un risque. Faut quand même le dire. C'est un risque aléatoire. Toute la France n'est pas, ou une région ne sont pas gagnées.
Sinistre, finalement. Comme une maison peut être brûlée, on peut imaginer que la mérule pourrait être couverte par certaines assurances.
Je n'ai pas d'informations particulières sur une possibilité de s'assurer.
Non, du tout.
D'accord.
Du tout.
Dites-moi. On revient dans un instant. 8h-20, on évoque la mérule et les dégâts impressionnants qu'elle peut faire dans la maison. C'est pas de la science-fiction, hein. Là, on parle de choses réelles.
Tout à fait réelles.
32-16, l'appli RMC Direct Studio, si vous voulez nous joindre, témoigner ou poser vos questions à notre invité. Christian,
oui.
D'ici 8h, on parle de la mérule avec notre invité Christophe Bruand, qui est co-gérant de la société APBM.
Voilà, qui est en région parisienne et qui nous disait tout à l'heure les dégâts que la mérule fait maintenant en région parisienne, alors qu'elle était tout à fait absente pratiquement il y a une vingtaine d'années.
Alors, pas mal de questions sur Direct Studio, comme par exemple Manisa qui nous demande: y a-t-il des essences de bois qui résistent à ce champignon, à la mérule? On dit que le châtaignier, par exemple, ne pourrit pas.
Alors, en France, on n'est pas sur des essences de bois imputrescibles. Tout ce qui est feuillu, résineux aujourd'hui en France sont susceptibles d'être infestés par de la mérule. Après, il y a des essences de bois plutôt tropicales, ou comme l'ipé du Brésil, où là, il y a moins de risques de pourriture du bois avec les champignons.
Ou le teck, par exemple.
Le teck.
Mais on imagine que, par exemple, un résineux, ça va être plus résistant que du chêne, peut-être? Non, pas forcément.
Le résineux, non. Il va être beaucoup plus attaqué facilement par la mérule qu'une essence feuillue comme le chêne ou le châtaignier.
C'est ça. Mais vous nous disiez tout à l'heure en antenne que le château de Versailles n'a pas été épargné par la mérule.
Pas que le château de Versailles, le château de Fontainebleau, des vieilles églises, des vieux ouvrages, oui. Malheureusement, qui, avec le temps, ont subi des problèmes d'infiltration, d'humidité au niveau des toitures, qui se retrouvent avec des problèmes de mérule au niveau des bois.
Et là, pourtant, c'est du chêne centenaire, multicentenaire.
Oui, même plus que ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur des essences de bois qui ne risque pas d'infestation d'insectes à larves sulfage et de champignons lignivores.
Alors, technique d'éradication, vous avez dit, il y a d'abord la phase d'exploration, je pense qu'il y a la phase aussi peut-être un peu destructive parce qu'il faut enlever tout ce qui est pourri.
C'est ça, il faut explorer pour vraiment déterminer l'étendue du champignon.
D'accord, mais alors après il y a des produits et ces produits ils sont pas aussi nocifs pour l'homme que pour la mérule, c'est en voulant tuer la mérule, on va pas assassiner nos enfants.
Non, parce qu'aujourd'hui pour le traitement des pathologies du bois, on a des produits qui sont testés en laboratoire par le FCBA sur l'efficacité du produit sur les pathologies et ce sont des produits aujourd'hui qui doivent respecter des normes d'écotoxicité aussi bien pour l'homme que pour l'environnement.
Et alors, comment on les applique ces produits? C'est quoi? On les pulvérise?
En fonction de la configuration, il y a des injections au niveau des murs, des injections au niveau des bois et une pulvérisation avec un produit spécifique pour les maçonneries et un produit spécifique pour les bois.
Alors la maison, elle est inutilisable pendant toute cette période-là, non?
Pendant la période de travaux ou si c'est dans des pièces de vie, oui, ça peut être contraignant.
D'accord, ça prend beaucoup de temps un traitement?
Ça peut demander d'une journée à une semaine.
D'accord.
Et est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'après ce traitement, vous garantissez que vous éradiquez la mérule?
Oui. Mais la première étape curative, comme on disait, c'est de remédier à tout problème d'humidité. D'accord. Ça, c'est la raison obligatoire pour une bonne efficacité du traitement dans le temps.
Sébastien, sur Direct Studio, j'ai fait isoler mes combles perdus avec de la laine de bois. Est-ce que ce matériau est susceptible d'être attaqué par la mérule ?
Non, parce que comme la plupart des matériaux aujourd'hui isolants écologiques, comme la ouate de cellulose, la fibre du bois, il y a...
Le biosourcé.
C'est ça, il y a à peu près 4% de sel boracique qui évite justement les problèmes de champignons, les problèmes de moisissures au niveau de ces matériaux.
Donc c'est naturel, mais il y a un peu de traitement, quoi.
Il y a un petit peu de traitement.
Et alors, la question, j'allais dire, qui tue, ça coûte combien? Alors c'est très difficile, j'imagine, à évaluer, mais si une maison est vraiment attaquée, ça a coûté combien?
Comme je vous disais, après tout dépend de l'étendue du champignon. Ça peut varier de 1000 euros à plusieurs milliers d'euros.
Vous alliez dire plusieurs dizaines de milliers d'euros.
On a eu des cas où effectivement on a commencé l'exploration sur un pavillon et on s'est aperçu que ça grimpait d'étage en étage.
Et les pavillons récents peuvent être aussi touchés ou c'est simplement les vieilles bicoques?
Aujourd'hui on a de plus en plus de pavillons qui ont moins de 10 ans, donc qui rentrent dans le cadre de la dommage ouvrage et qui sont beaucoup infestés par des problèmes de mérule, mais principalement au niveau des vides sanitaires ou des sous-sols. Mal aéré, mal ventilé.
Ouais, c'est-à-dire que il faut vraiment, là, je le dis moi, à longueur de temps, ventiler vos maisons, quoi.
C'est indéniable.
Et à partir du moment où on a fait ces travaux, François en parlait tout à l'heure, il y a une garantie. Vous avez une garantie.
Il y a une garantie sur les maçonneries. Il y a une garantie sur les bois. De 5 à 10 ans, en fonction des traitements. Mais si on a remédié au problème d'humidité, qu'il y a une bonne efficacité du traitement. C'est définitif.
Merci beaucoup. Merci Christophe Bruand de la société APBM. Et vous êtes évidemment certifié CTBA.
CTBA plus depuis plus de 30 ans.
Eh bien dites-moi. Donc ça va dans le studio, il n'y a pas trop de mérule?
Ça va. Je vais vous laisser une carte.
Alors laissez-nous une carte. Je ne sais pas si vous avez un appareil pour détecter, etc.
Mais il n'y a pas d'appareil comme pour les termites là.
Non, du tout. Hein.
Bon, en tout cas, on est dans des studios qui sont neufs. Je pense pas que, Christian, qu'est-ce que
ça devrait aller là? Je pense.
Ça devrait aller.
Puis je vois pas trop de bois. Je vois surtout.
Oui. Je vois surtout de l'électronique et des câbles
et de l'acier.
Ça c'est sûr.
Avec des structures tubulaires.
On enchaîne. Merci. Avec. Tiens, on va rester toujours dans l'humidité finalement, qui est la clé de tout. C'est Eric qui est avec nous au 32-16. Bonjour Eric.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour Eric.
Merci pour l'émission.
On vous écoute.
Comme à pic.
Oui, voilà, parfait.
Alors, voilà, j'habite une maison qui a quelques années, quoi, qui n'est pas récente. Il y a une mezzanine. L'isolation, donc, ça a été bien mieux isolé au fil des années. Et maintenant, j'ai un souci de condensation, n'ayant pas de EMC, n'ayant pas la possibilité d'en installer une, dans la mezzanine sur les points hauts. du plafond, on peut dire, quoi.
Bien sûr, vous êtes sur la condensation. Alors, si vous pouvez pas installer de VMC, il y a ce qu'on appelle globalement la VMI. Alors, encore, c'est un nom déposé, mais ce qui vous met la maison en surpression. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite centrale, parfois avec une capacité de réchauffer. Donc, c'est pas très, c'est pas très vertueux sur le plan purement de la RT 2012, mais la réglementation thermique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va puiser l'air en extérieur et on va souffler l'air dans l'intérieur. Et on va faire en sorte que les huisseries, notamment les portes, soient détalonnées, donc détalonnées, c'est-à-dire un petit jour, et qu'il y ait des ouïes de sortie de l'air dans la maison. Si bien que c'est l'inverse de la VMC, au lieu d'aspirer l'air pour le recracher à l'extérieur, eh bien là, vous poussez l'air à l'intérieur et vous allez régler tout à fait vos problèmes d'humidité de cette façon-là.
D'accord. Et deux questions, s'il vous plaît. Hier, j'ai fait venir une entreprise qui m'a fait un prélèvement sur les champignons, qui doit me rendre son verdict la semaine prochaine, en fait. C'est une entreprise, bon, je ne sais pas si je peux la citer.
Faites comme vous voulez.
Murprotec.
Oui.
Et voilà, ils doivent peut-être solutionner ce problème. Et après, je pensais acheter un déshumidificateur, peut-être, pour
bien sûr.
Voir
bien
si
sûr.
Ça peut solutionner le
non,
problème.
Non, mais attendez, vous n'avez les champignons, entre guillemets, que vous avez là, c'est de la moisissure. C'est pas de la mérule, là. Donc, ne vous laissez pas avoir avec des factures, des montants de vie faramineux. Vous avez la bonne solution aussi, c'est-à-dire la ventilation, plus un ou plusieurs déshumidificateurs électriques. Si possible, raccordé sur l'évacuation des eaux, et vous allez sortir jusqu'à des quantités, des litres d'eau par jour.
Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Et...